Lors de notre dernier message, nous avons vu à quel point le plan de salut prévu par Dieu est d'une grande simplicité. Et certains peuvent se dire, mais c'est beaucoup trop simple. Comment peut-on acquérir le salut si facilement? Comment Dieu peut me pardonner si facilement? Et puis on peut se dire aussi, mais quand je vois ma vie, quand je vois l'énormité de mes péchés, je ne vois pas comment Dieu peut me pardonner. Certains se le disent vraiment, en disant, Dieu pardonne peut-être à certains, mais mon péché à moi, ce n'est pas possible. Et si Dieu peut... Et la question en fait à laquelle nous allons essayer de répondre ce matin, c'est ça, c'est est-ce que malgré l'énormité des péchés, Dieu pardonne? Est-ce que Dieu pardonne tout? Et pour cela, je vous propose vraiment une étude concrète d'un passage de la Bible sur le sujet. On va étudier un cas concret, plus précisément dans la Bible. Et avant de commencer cette étude, j'aimerais vous lire un verset intéressant qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 13. C'est le verset 22 qui dit « Dieu leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. » Et c'est ça, le fait que Dieu dise de David qu'il était un homme selon son cœur. C'est par rapport à ça que nous allons faire notre étude, essayer de connaître ce David un petit peu. Nous allons étudier juste une tranche de sa vie. Une tranche de la vie de cet homme selon le cœur de Dieu. Et une bonne partie de la prédication sera plutôt sous une forme de lecture du passage de la Bible, parce que finalement c'est tellement riche, l'histoire est riche et suffisamment claire pour qu'il n'y ait pas besoin de beaucoup de commentaires. Nous allons plutôt lire cette histoire de la vie, une tranche de vie de David qui se trouve dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 11. Et je vais commencer par les 27 premiers versets. Alors, ce qui nous a raconté ici, c'est l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri, le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David et l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave-toi les pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David, et on lui dit, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campe en rase campagne, et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et coucher avec ma femme. » Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il envoya cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et dira-t-il « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre ? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille ? Qui a tué Abimélec, fils de Jérubbéchet ? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin ? Et n'en est-il pas mort à Thébeth ? Pourquoi êtes-vous rapproché de la muraille ? Alors tu diras, ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. » Le messager partit, et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, « Ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs, et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. » David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. » Alors, la femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison et devint sa femme et il lui enfanta un fils. Voilà l'histoire de l'homme selon le cœur de Dieu. Cette histoire, si on l'examine bien, il y a beaucoup de choses de terribles qui se passent. Ce que David a fait est terrible. Il y a plusieurs choses à relever. D'abord, il y a eu de l'abus de pouvoir de sa part. Il est roi, il va faire chercher une femme et il n'a rien à dire. Abus de pouvoir. Viol. Sa femme n'était pas la sienne, sa femme n'était certainement pas consentante, mais il est le roi. Il viole la femme. Adultère. Parce qu'il était marié, sa femme aussi. Ça fait trois choses. Tentative de dissimulation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il fait venir, comme Uri, comme il apprend que la femme est enceinte, il fait venir Uri, je ne sais pas si vous avez bien saisi ce qui s'est passé, il lui dit d'aller dans sa maison. Parce que si jamais elle tombe enceinte, alors que le mari est sur un champ de bataille, on comprendra qu'il s'est passé quelque chose d'étrange. Donc il lui dit d'aller dans sa maison, comme ça, si l'enfant naît, ni vu ni connu. Tentative de dissimulation. Manipulation. Il l'enivre, il le fait boire, parce que Uri, ne voulant pas aller dans sa maison, il trouve quand même des moyens. Il le fait boire, comme ça, il ne sera pas tout à fait en forme, et il ira quand même dans sa maison. Manipulation, assassinat, meurtre, parce que c'est lui qui a tué Uri. Et en plus, il dissimule aussi le meurtre sous forme d'accident de guerre. Là, j'ai cité quoi ? 6 chefs d'accusation contre David, dans cette petite histoire. 6 chefs d'accusation. Et la Bible nous dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu. On se pose des questions. Comment est-ce possible? Nous allons lire la suite de l'histoire pour comprendre. Je reprends à la fin du verset 27 et jusqu'au chapitre 12, verset 1 à 9, et puis le verset 13. On va s'arrêter là pour aller vite. Donc il est écrit ce que David avait fait déplut à l'Éternel. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. » Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche ne voulut pas toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il prit la brebis du pauvre et la apprêtait pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme. » Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela n'eût été peu, je lui aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. » Alors c'est un peu rapide, la fin. David dit, j'ai péché contre l'Éternel, et le prophète lui dit, Dieu te pardonne. Et c'est plus profond que cela. Ce n'est pas simplement parce qu'il a dit, j'ai péché contre l'Éternel, on verra un peu plus tard le fait qu'il parle de l'Éternel tout de suite. Mais s'il est pardonné, c'est parce qu'il est passé par une véritable repentance. Et on va le retrouver, on va retrouver donc l'état de son cœur lorsqu'il va écrire le psaume 51 que vous connaissez. Suite à cette histoire d'ailleurs, je vous lis les 19 premiers versets de ce psaume au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, voici ce que David écrit, comment on sent ce qu'il y a dans son cœur. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans le péché, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne de ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un esprit pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et là, il est question de contrition. La contrition, quand on regarde la définition, c'est un regret sincère. C'est le regret sincère d'une faute ou d'un péché. C'est cette notion de sincérité où on a vraiment le cœur qui saigne parce qu'on a péché. Et surtout, David dit, j'ai péché contre l'Éternel. À chaque fois qu'on pêche contre quelqu'un, c'est d'abord envers Dieu qu'on pêche. C'est d'abord envers son Créateur qu'on pêche. Et David l'a reconnu. Et cette repentance profonde et sincère de David lui a valu le pardon de tout ce qu'il a fait. Malgré l'énormité de ce qu'il a fait. Dieu pardonne parce qu'il y a de la sincérité. Et c'est pour nous tous, c'est pareil. Quel que soit le crime, si nous sommes sincères dans notre repentance, Ésaïe 55, verset 7 dit « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il suffit de venir avec un cœur contrit, brisé, repentant. Et là, et David a tellement bien compris. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on l'appelle, on dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Et quand on lit ses psaumes, on voit qu'il a vraiment, son cœur a été touché. Il a écrit le psaume 103. Psaume 103, j'aimerais vous lire les versets 8 à 14. Il parle de Dieu, de la compassion, de la miséricorde de Dieu, parce qu'il l'a vraiment expérimenté. Ce qu'il a fait, on pouvait dire, c'était sans issue. On pouvait dire, mais c'était trop horrible ce qu'il a fait. Trop horrible. Mais quand il a été pardonné, il a compris la miséricorde de Dieu. Et il écrit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Ouais, Dieu se souvient que nous ne sommes pas grand-chose. Il a compassion de nous. Et ce qu'il attend de nous, c'est de l'humilité. Reconnaître que nous ne sommes à rien et venir le cœur humble devant lui. Et c'est lui qui nous fait cette promesse, ce verset que j'aime beaucoup, de 2 Chroniques 7, 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, c'est ça le cœur, s'humilie, le cœur de l'affaire, c'est ça, c'est l'humiliation, c'est s'humilier devant Dieu. S'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Voilà, c'est l'humilité que Dieu nous demande. Et aussi la sincérité. Il ne s'agit pas simplement de dire les choses avec la bouche, « Seigneur, j'ai péché contre toi. » Mais qu'on ait un cœur sincère, quel que soit ce qu'on a fait, qu'on soit sincère dans sa repentance. Et c'est toujours David qui nous le rappelle. L'Éternel est près de tout ce qu'il invoque. De tout ce qu'il invoque avec sincérité. Psaume 145, verset 18. Et il faut savoir que cette sincérité vient du fait que nous devons être sincères parce que nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs. Et le reconnaître. Et l'apôtre Jean, qui a beaucoup parlé de l'amour de Dieu, écrit dans sa première lettre au chapitre 1, j'aimerais vous lire les versets 8 et 9, et puis chapitre 2, versets 1 et 2. Il nous dit, il parle de nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et ces péchés, quelle que soit leur énormité, nous pouvons faire des choses abominables. Mais Dieu dit, rien n'est trop abominable pour que je pardonne. Et c'est le prophète Ésaïe qui nous le rappelle dans son livre, chapitre 1, verset 18. Dieu, c'est Dieu qui nous invite, il dit, venez, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est-à-dire que quelle que soit l'énormité de ce que nous faisons, Dieu promet qu'il peut effacer. Et que ça deviendra tout blanc. Et ceci, c'est pour tout le monde. Dieu ne fait pas d'acceptation de personne en disant « je prends telle personne ». C'est tout le monde qui peut venir parce que le salut, Dieu le veut pour tous. Et la parole nous le dit bien. L'apôtre Paul nous dit dans sa première lettre à Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et Dieu veut pardonner les péchés de n'importe qui. Il n'y a pas d'exception. Et Jésus nous invite. Ce Jésus si compatissant. Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. » Et il promet qu'il ne rejettera personne. Il nous invite. Il dit en plus, « Je ne rejetterai personne. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » C'est Jésus qui dit cela. Jean chapitre 6, verset 37. C'est une promesse. Allons vers Jésus. Il nous invite. Et surtout, cette invitation, c'est pour aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, « Aujourd'hui, ma vie, elle est ce qu'elle est. Je vais attendre un petit peu pour un jour, je vais me repentir. » Mais la parole dit, « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreux chapitre 3, verset 7 et 8. C'est aujourd'hui que Dieu nous invite. Ne remettez pas à demain. C'est maintenant. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6 et 2. Voilà ce que Dieu nous invite à faire. Si nous avons un gros péché, nous disons, voilà, je ne peux pas te pardonner, je préfère rester dans mon coin, le salut n'est pas pour moi, ce n'est pas vrai. La parole est claire. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et Jésus a fait un dernier appel, et je vais terminer là-dessus. Dernier appel parce qu'il se trouve dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. C'est même une supplication que Jésus fait dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Et je vais m'arrêter là-dessus. C'est Jésus qui parle à chacun de nous. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Que Dieu vous bénisse. Amen.